Il est midi passé de 19 minutes et c'est avec plaisir que nous allons à la rencontre des activistes de cette belle auberge de la Porte à la Rose située à Quintin. Françoise, Claudine, accompagnée de Élise de Richesse, car nous sommes dans le cadre de nos rendez-vous mensuels avec le pôle d'économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc, c'est-à-dire Richesse. Bonjour Élise quand même.
Salut.
Ça va bien?
Ça va.
Oui, et toi?
Ouais.
Depuis un petit moment qu'on s'était pas croisé. Bah, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas croisé. Françoise, Claudine, bienvenue sur le plateau de Radioactive. Bon, vous êtes arrivé un peu en avance, vous êtes familiarisé avec l'ambiance. Comment
voilà.
Ça va?
Oui, ça va.
Tout
bonjour.
Bonjour et bienvenue sur ce beau plateau. On va commencer par évoquer évidemment l'historique qui vous a conduit à, entre guillemets, continuer à retaper d'ailleurs cette belle auberge. Auberge patrimoniale, c'est bien ça, Françoise?
Tout à fait. Donc, Quintin est une ville historique, moyenâgeuse.
Ouais.
Et donc sur cette place 1830, il y avait une auberge qui s'appelle l'auberge de la Porte à la Rose, qui est dans son ADN toujours dédiée à l'accueil des gens depuis le Moyen-Âge. Donc cette auberge a été mise en vente en 2020.
Très bien.
Donc,
très bien, à une époque où je ne sais pas si c'était le meilleur moment d'ailleurs. 2020.
Voilà, mais bon, c'est vrai que ça, pour certains, ça va participer un petit peu à une certaine lenteur, mais bon, c'est vrai qu'on a eu deux années de Covid qui ont fait que les choses ont été un peu au ralenti, mais l'accélérateur est reparti depuis un an. Donc, on va revenir à l'histoire. Donc, cette maison a été mise en vente en 2020. Donc, un certain nombre de Quintinais se sont dit, cette maison, l'ADN de cette maison, c'était l'accueil, donc il ne fallait pas que ce soit quelqu'un qui la rachète et qui n'en fasse pas un lieu public.
Ouais.
Donc, il a été distribué dans les boîtes aux lettres des Quintinais, un flyer, en disant qu'il fallait sauver l'auberge, puisque bon nombre de Quintinais ont des souvenirs d'enfance dans cette maison. Et donc, 70 personnes ont répondu présent. Donc, à 70, nous avons racheté, donc, le 23 décembre 2020, l'auberge de la Porte à la Rose, située au 5 place 1830 à Quintin.
Donc, ça fait 3 ans tout juste, là.
Voilà. Donc, bon anniversaire à l'auberge.
À qui on n'aura pas, on va pas donner son âge exact alors, parce que c'est la date du 17e siècle.
Elle date du 16e.
16e même.
16e et 18e, puisqu'en fait, il y a 281 mètres carrés de surface.
D'accord.
Donc, alors, comment ces surfaces vont-elles être utilisées? Donc, les copropriétaires se sont organisés en commission. Donc, il y a la commission des usages qui a été la première à travailler parce que, il fallait définir ce qu'on voulait en faire. Pour ensuite transmettre ces propositions aux architectes des bâtiments de France, puisque cette maison est classée monument historique sur la façade et la charpente.
Eh oui, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Évidemment.
Et donc, il y a aussi un troisième intérêt historique à ce lieu, puisque c'était la Bretagne et Quintin en particulier étaient une ville de tisserands, enfin, c'était une zone de tisserands. Et donc, cette auberge a été le lieu où était contrôlée l'étoile avant qu'elle ne soit chargée sur les bateaux à Saint-Malo pour via Cadix et l'Amérique du Sud, voire éventuellement les Indes.
D'accord.
Donc, et la table qui servait de contrôle est aujourd'hui présente dans le musée du Lin qui se trouve en contrebas de l'auberge à Quintin.
Très très bien. Et du coup, pour évidemment au-delà de l'achat de cette auberge, il faut aujourd'hui évidemment la remettre d'aplomb, j'ai envie de le dire comme ça, parce que d'abord elle est effectivement historique, mais je suppose qu'elle n'est pas tout à fait comme elle a été à l'époque de sa construction.
C'est-à-dire qu'elle est dans son jus du 16e.
Voilà, tout simplement. Et du coup, Élise, ce projet, comment Richesse on a eu connaissance, comment l'a-t-il accompagné du coup?
En fait, nous, on propose un parcours d'accompagnement à l'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire, donc l'incubateur.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on a connu l'auberge, puisqu'ils ont postulé pour être accompagnés par Richesse et les pôles ESS des Côtes d'Armor. Et donc, ils ont fait partie du parcours de l'année dernière de l'incubateur.
D'accord.
Donc, ils ont participé aux ateliers collectifs qu'on met en place toutes les semaines pour les entrepreneurs qu'on accompagne, puis d'un suivi individuel aussi par Richesse en parallèle.
Françoise et Claudine, qu'est-ce que vous avez appris à cette occasion-là? Parce que voilà, on peut avoir plein d'idées généreuses pour retaper entre guillemets une auberge, mais il faut aussi s'intéresser à sa viabilité, au fait, parce qu'il y a aussi un modèle économique évidemment à défendre derrière. Qu'est-ce que vous avez appris à l'occasion de ce passage à l'incubateur?
Bon, on a appris plein de notions justement d'économie qui nous faisaient défaut.
Ouais.
Et puis on a aussi appris à utiliser certains outils qu'on ne connaissait pas. Et en fait, ça nous a surtout permis de réaliser un gros dossier qui nous permet maintenant de pouvoir se présenter à différentes structures, que ce soit bancaire, que ce soit là pour le loto du patrimoine. Ça nous a aidé à faire un super dossier.
Ah, vous avez participé à ça?
On vient de déposer notre candidature pour 2024.
Oui. Alors, tu vois, Élise, ce que dit Claudine, finalement, c'est que grâce à Richesse, il y a eu un élargissement des horizons, y compris en termes de sources de financement, que vous avez peut-être aussi suggéré à aider à chercher, puis suggéré d'aller peut-être taper à certaines portes. C'est aussi ça le principe de l'incubateur?
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que le profil de Claudine, Françoise et puis Marie-Thérèse, Mireille aussi, qui ont participé aux ateliers, qui sont pas là, mais il est intéressant parce qu'elles sont vraiment passées du volet citoyen à des entrepreneurs. Heureux du coup,
ouais.
de l'économie sociale et solidaire, et elles ont appris, et après elles ont transmis ça au collectif, à vraiment créer une entreprise de A à Z, pour en faire de cette auberge-là demain un projet économique et social.
Et viable, parce que c'est aussi ça qui est important et toujours intéressant à rappeler. Vous saviez où vous mettiez les pieds, très franchement, Françoise et Claudine, lorsque...
Non. Mais la foi nous a... La foi, puis la défense du patrimoine, en fait,
et
transmettre, et puis aussi finir cette place 1830, puisqu'en fait, il y a déjà deux hôtels qui ont été rénovés, et cette troisième maison fait partie d'un triptyque. Il faut que cette maison soit rénovée et vienne continuer cet espace-là, voilà.
Donc c'est une démarche d'habitante, en fait, au départ, une démarche de j'ai pas envie de dire sauver le patrimoine, mais on est quand même pas très loin de ça.
C'est tout à fait ça. Oui, c'était sauver l'auberge, c'est sauver le patrimoine et le transmettre aussi.
Bien
parce qu'il faut savoir que dans les copropriétaires, effectivement, la moyenne d'âge, mais il y a aussi des jeunes, il y a des trentenaires qui sont aussi copropriétaires. Donc c'est pas qu'une histoire de
génération,
de vieux, quoi. Voilà.
Non, mais c'est important parce que évidemment derrière il y a aussi un projet, puis un projet d'accueil, un projet de vie, pour reprendre un petit peu finalement la définition originelle de ce que c'est que cette auberge de la Porte à la Rose, c'est-à-dire un lieu d'accueil tout simplement. C'est ça aussi, j'ai l'impression que ça fait quand même partie de ce que vous avez envie de mettre en place ou de remettre en place pour le futur de cette auberge, quoi.
Voilà, ce qu'on veut aussi, c'est aider aussi à la redynamisation du centre-ville de Quintin.
Oui.
Être acteur, tout simplement, hein, parce que il faut être collectivement acteur de la vie de Quintin, tout simplement, hein, voilà.
Vous êtes habitantes toutes les deux de Quintin?
Moi je suis une habitante.
Moi j'habite
quatre générations, moi.
Ah oui, effectivement.
Moi j'habite.
Je suis née sur la place.
Donc tu l'as toujours vue, finalement, cette auberge.
Oui. Ouais.
Moi j'habite à côté de Quintin, mais en fait mes grands-parents et parents étaient originaires de Quintin, donc je connais aussi Quintin depuis
un certain temps. Élise, forcément, quand on entend ça, on peut dire qu'on est vraiment d'abord cette défense d'un commerce de centre-ville, parce que c'est aussi ça, mine de rien, d'une revitalisation d'un centre-ville. Forcément, là, on est dans le SS, on est même en plein dedans, j'ai envie de dire.
Bah oui, déjà c'est un projet citoyen de base, donc c'est ça a sa place dans l'économie sociale et solidaire, et puis ils viennent répondre aussi à un besoin, comme disait Françoise, d'attractivité aussi de Quintin et ses alentours, autour du tourisme, puisque l'auberge à l'époque hébergeait des marcheurs
de Saint-Jacques.
De Saint-Jacques,
ah, oui.
Et continuera dans cette lignée un peu historique qu'elle a eue.
D'ailleurs, c'est pas mal revenu dans les... Enfin, il y a des gens qui le font, pas forcément parfois d'ailleurs, qui le font tout simplement pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-la-Lande, ça se fait... Saint-Jacques. Non, Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est plus près. Non, Saint-Jacques en Galice, évidemment, Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais c'est bien si cette vocation peut revenir, après tout, pourquoi pas.
Bah oui, oui, et puis c'est vrai qu'il y a un besoin d'hébergement aussi sur ce territoire-là, et en fait l'auberge vient compléter l'offre qui peut déjà y avoir avec une offre différente, plus, enfin voilà, qui
tournée vers l'économie sociale et solidaire,
c'est ici, ça,
à travers le dortoir, puisqu'en fait les usages qui ont été définis, donc c'est bistrot, petite restauration au rez-de-chaussée avec une terrasse, la mairie nous a déjà accordé les places.
Très bien.
Ensuite, dans les étages, il y aura trois chambres d'hôtes, et dans les greniers, il y aura des dortoirs pour les les marcheurs, mais qui aussi pourront être permettre d'accueillir des jeunes qui sont en stage, qui ont besoin de trouver un endroit.
Dans une ville, pardonne-moi Françoise, mais dans une ville où on sait qu'il y a aussi un gros lycée, où il y a un centre de formation, et c'est vraiment un problème. On accueille régulièrement ici nos partenaires des GEC, des centres de formation du GEC, et qui sont souvent à la recherche d'emploi, de logement, je veux dire, à Quintin, c'est pas simple, quoi.
Voilà, donc en fait, c'est un des objectifs aussi de cette maison-là, d'être une auberge, hein, ce que ça veut dire. Hein, c'est bien on boit, on mange, on dort et on accueille les gens gentiment.
Voilà, c'est ça, comme dans la définition médiévale, en plus, c'est parfait. Quand même, moi, une question qui me vient un peu à l'esprit, c'est est-ce que c'est un avantage ou une difficulté que de restaurer du patrimoine? Parce qu'on sait que ça a des coûts qui ne sont pas tout à fait les mêmes que lorsqu'on bâtit du neuf. Elle lève des grands yeux au ciel, Françoise. C'est la question que je voulais poser. Voilà.
Ben c'est très surprenant, mais bon, on va y arriver. Hein.
C'est très surprenant, quoi. C'est plus cher que ce qu'on pensait, c'est ce que
non,
tu
mais
veux
c'est,
dire.
C'est une difficulté à deux niveaux, parce que les délais sont différents.
Oui.
Puisqu'en fait, on est obligé de passer par des architectes et
des bâtiments de France.
Des bâtiments de France, et puis après, les artisans qui interviendront aussi, certains, seront spécifiques. Et le deuxième, c'est les coûts, puisque du coup...
Le coût de la rénovation.
Le coût de la rénovation un peu dépassé nos
entendements,
nos prévisions de départ.
Et du coup, est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau pour Richesse, finalement, de travailler sur cette notion de restaurer un patrimoine comme ça ancien, ou pas? Je te la pose la question, Elise.
J'ai pas l'historique de tous les projets qu'on a accompagnés.
Non, mais est-ce que c'est quelque chose d'habituel ou pas? C'est peut-être ça la question.
Oui, après ça, enfin, en tout cas, la vocation culturelle et patrimoniale, y a pas vraiment de domaine d'activité hein, dans l'ESS, donc ça a sa place, en tout cas, comme tout autre domaine d'activité, j'ai envie de dire.
Non, je posais cette question, Elise, parce que peut-être qu'il y a une expertise qui aurait pu déjà être mise en place avec des projets précédents, ça aussi, ça, l'ESS.
Oui, en fait, cette l'année où l'auberge a été accompagnée, il y avait aussi le château.
Oui, il y avait
son voisin, en fait.
En plus, c'est pas mal.
Il y avait le château, puis il y avait aussi sur
Lannion, il y avait aussi un manoir, effectivement, qui se retransformait en tiers-lieu culturel aussi.
Très bien.
Donc, beaucoup de lieux patrimoniaux qui ont une vocation à faire vivre la culture sur le territoire. Et puis voilà, à retaper des bâtiments qui sont en péril pour certains, notamment l'auberge, le château aussi. Enfin voilà, c'est encore une autre dimension, mais ils ont chacun leur dimension, donc c'est ça qui est rigolo aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des similitudes et puis il y a forcément des différences, quoi. Mais du coup, c'est des projets longs.
Ouais. C'est intéressant ça, parce que finalement, ça veut dire que vous avez peut-être aussi des conseils à prendre à droite et à gauche. C'est peut-être ce que vous faites déjà, Françoise, Claudine ?
Oui. Oui, on travaille
de
concert avec le château régulièrement.
Mmh. Et puis il y a quoi, il y a 150 mètres entre les deux, c'est ça?
C'est ça, oui.
À peu près.
En
tout cas, super beau projet. On va forcément faire une petite pause, mais surtout on va, avant de la faire, cette pause, dire tout simplement où vous en êtes aujourd'hui, actuellement, après donc l'achat en 2020. Ça fait 3 ans aujourd'hui, on les fête, on le disait au mois de décembre, c'est l'anniversaire. C'en est où aujourd'hui en termes de rénovation?
Eh ben, en termes de rénovation, pour l'instant, il y a rien de fait, puisqu'on vient juste au mois de juin d'obtenir toute l'étude des architectes.
D'accord. Donc, oui, c'est vrai que là, je comprends la notion de temps et la petite remarque sur le temps pour le
voilà.
coup.
Voilà. Donc, il y a qu'à partir de cette fin d'année qu'on peut réellement se projeter. On a fait les études de phasage pour voir quelles étaient les étapes importantes dans les travaux. Parce que, bien évidemment, il faudra d'abord qu'on passe par la sauvegarde de l'auberge dans un premier temps, avant de pouvoir imaginer les travaux pour développer notre activité vraiment. Donc, on est sur une vision à 2, 3, 4 ans.
Très bien.
Et c'est pour ça aussi qu'on s'est positionné sur le loto du patrimoine, parce qu'en fait... suivant ce qu'on va obtenir comme aide, ça va pouvoir accélérer ou pas la mise en place des travaux.
Petite parenthèse là-dessus, le loto du patrimoine, c'est combien de projets, vous savez à peu près, qui sont récompensés? Est-ce que c'est un dossier très compliqué à remplir?
Il y en a un par département et un par région.
Bon, comme ça, on va croiser les doigts pour que ça aille jusqu'à Quintin.
Les résultats seront en septembre 2024.
Il faut de la patience pour tout ça, dites-donc.
Voilà. C'est une chose qu'on vient d'apprendre.
Et qu'on doit transmettre à tous nos copropriétaires.
Exactement, parce que c'est aussi une histoire de copropriétaires. On va parler justement de ce financement que vous avez mis en place auprès, notamment des cantinés qui sont les premiers concernés. On se fait une rapide pause musicale, on retrouvera quelques idées de sortie avec Noélie et puis on continue cette discussion juste après. Un extrait de l'album de Malumi, album coup de cœur de la Ferrarock cette semaine. L'album c'est The Universe is Black, ça nous vient de Suisse et c'est très bien.
What would you do if all your dreams came true? Probably die in peace and quiet, as we're all supposed to do. Or would you go without a last link of life? And would you close your eyes without the touch of life? Tell me, would you go and let the spirit sky? The places where you hide are all close to lakes, and in between the mountain tops, that's very green. All your dreams came true.
Signé Malumi, Dreams, ça veut dire rêver, et finalement c'est un petit peu aussi ce qui nous occupe ce midi avec ce beau projet de restauration de l'auberge de la Porte à la Rose du côté de Quintin. Il faut un peu de rêve pour réaliser ça, et ce rêve, on va continuer à l'évoquer avant qu'il ne devienne complètement réalité, mais il y a un petit peu le temps si j'ai bien compris. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une belle réalité, c'est celle des idées de sortie que va vous proposer tout de suite Noélie sur Radioactive.
Alors c'est pas vraiment une idée de sortie, puisque je me suis dit que vu que Mathilde vous avait déjà proposé deux très belles idées de sortie, non, je voulais seulement parler d'une initiative qui s'inscrit un petit peu dans l'initiative de Bretagne Solidarité avec les box solidaires.
Oui.
Et c'est cette fois-ci c'est en fait le même principe avec des boîtes de Noël pour les plus démunis. Qui a été mis en place du coup par quelques commerçants de Saint-Brieuc et les environs. Et ça, c'est une initiative jusqu'au 20 décembre inclus. Et donc du coup, le principe est très simple. C'est un petit peu la même chose que du coup les box solidaires. Et vous prenez une boîte à chaussures et vous pouvez mettre quelque chose de chaud, un loisir, une douceur à manger pour Noël, un produit de beauté et un mot doux. Et en fait, vous pouvez du coup emballer la boîte à chaussures dans un petit papier cadeau. Et après, du coup, donner cette boîte à chaussures en spécifiant pour quel public est cette boîte à chaussures. Et donc, du coup, il y a 3 points de collecte au café librairie.
librairie Beaujangle à Saint-Brieuc, à Ploufragan Braise My Phone et à Langueux New Hair. Et donc ça, c'est jusqu'au 20 décembre. Et donc du coup, c'est quand même une super, super bonne action de Noël. Et on avait vu à quel point les box solidaires avaient marché. Donc je pense que celle-là aussi aussi beaucoup éclore. Du coup, voilà. Et puis sinon, j'avais juste relevé une petite session de musique bretonne au Tir Arvro vendredi 15 à 20h15 et c'est gratuit.
Donc, voilà. Oui, toi qui adore la gavotte, c'est parfait. Donc c'est à retrouver là aussi dans le Quai de l'Ormeau et puis il y en a plein des idées de sorties en cette fin d'année 2023, quand on est déjà en fin d'année 2023, et oui.
Radioactive.
101.9.
Sur le 101.9, on continue notre exploration de ce voyage du côté de Quintin en compagnie de nos amis du pôle d'économie sociale et solidaire, richesse du pôle d'économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc, représenté par Élise ce midi, et puis c'est avec Claudine et Françoise que nous avons rendez-vous. C'est associatif, tiens, entre parenthèses, l'auberge de la Porte à la Rose.
Oui, donc l'achat des murs a été fait sous forme de SCI. Et donc, parallèlement à cette
société civile immobilière,
donc nous avons créé une association qui, des amis de l'auberge de la Porte à la Rose. Oui, c'est un très très grand mot, mais c'est comme ça. Et donc, cette association, en fait, elle a animé l'auberge depuis 3 ans. Hein. C'est-à-dire que nous sommes ouverts les jours de marché, le mardi et le samedi matin. Et puis aussi toutes les festivités qui se passent dans Quintin. Donc l'auberge est ouverte et on explique notre projet aux gens. De ce fait-là, on a récupéré en gros 700 adresses mail. Donc tous ces gens qui sont intéressés pour suivre le projet, soit tout simplement suivre l'idée, mais aussi attendre des nouveautés quant au financement, ouais, pour éventuellement venir nous rejoindre. Voilà.
Donc, et proposer des compétences.
Et proposer également des compétences, c'est-à-dire que dans la réhabilitation des murs, elle se fera obligatoirement par des professionnels des métiers concernés. Par contre, tout ce qui va être aménagement intérieur et puis finition, il y a des gens qui ont donc des compétences et qui mettront leurs compétences justement au service du réaménagement intérieur de l'auberge. Donc ça rejoint l'économie sociale et solidaire.
Effectivement, et puis cet aspect associatif est assez souple pour permettre justement d'intégrer le maximum de personnes qui sont intéressées. D'ailleurs, je crois que ça a commencé par une demande de financement participatif, hein, aussi. Quand tu parlais tout à l'heure, Françoise, de ces boîtes aux lettres, vous demandiez de peut-être participer à des citoyens pour pouvoir soutenir financièrement le projet.
Pour racheter, c'était l'objectif, c'était de racheter l'auberge.
C'est ça.
Donc ça, dans un premier temps, et puis maintenant l'association. Ça, c'était la SCI. Et maintenant, l'association a fabriqué avec des petites mains des couturières des produits logotés logotés à l'auberge. Et donc, les gens qui passent, à qui on explique le projet, éventuellement, soit ils font des dons substantiels, ou soit tout simplement, ils repartent avec une petite chose, on va dire.
Ouais.
Ça va de 1 euro à 25 ou 30 euros. Voilà.
Donc il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de
petits dons.
Exactement.
Et nos produits sont fabriqués en général en lin.
D'accord.
De récupération, ou quand on n'a pas de lin, coton ou chanvre. Puisqu'en fait, on reste dans l'esprit de l'auberge de départ.
Vous n'allez pas en planter un petit peu du lin du côté de Quintin?
Il y en a de planté tous les ans pour la fête des tisserands.
Ah ben voilà, c'est important.
Mais la Bretagne redémarre sur un circuit de lin, il y a dans le Finistère, et
oui,
puis d'ailleurs il y a pas très longtemps sur les ondes de FR3, il y a des entrepreneurs qui sont en train de remettre en route des métiers à tisser dans le Finistère.
Ouais, c'est important parce que d'abord c'est durable, c'est écologique, c'est mieux que du pétrole pour faire du nylon. Tiens, voilà, paf, c'est dit. Élise, lorsque l'on apprend que forcément on fait appel aux citoyens, lorsqu'on fait appel aux habitants de Quintin pour revitaliser aussi leur centre-ville, forcément là encore c'est tout à fait ce que vous prenez à richesse.
Oui, c'est les projets citoyens comme ça, c'est vrai qu'ils sont particuliers à accompagner aussi, parce que autant on a des porteurs de projets qui viennent et dont l'enjeu c'est aussi de se salarier sur le projet, eux pas du tout. Le but c'est vraiment de faire revivre un lieu pour son territoire et d'apporter une réponse à un besoin, mais effectivement il n'y a pas d'enjeu particulier pour eux de se salarier, donc c'est purement... un projet associatif.
Même s'il y a quand même un projet économique derrière, puisqu'il y a aussi la volonté de créer une petite auberge, pour le coup, et puis aussi un lieu d'accueil. Françoise, tu disais que ça faisait quelques générations que tu étais cantinaise, pour le coup, enfin que la famille est cantinaise. Est-ce que tu l'as vu vivre, cette auberge, dont c'est déjà?
Oui. Bah oui. Oui, parce qu'en fait, cette maison, dans les années 50, a été rachetée par un couple. Et puis, donc, la ruralité faisait que souvent, le mari était soit dans le milieu agricole, soit dans le milieu marin. Donc, là, en l'occurrence, monsieur et madame Mérotte, monsieur Mérotte était marin et madame Mérotte avait sa petite activité de bistrot.
D'accord.
Et donc, voilà, donc tout. Beaucoup de garçons ont des souvenirs avec leur père ou leur grand-père. Les filles, moins, quand même. Parce que, à cette époque-là, on n'allait pas au bistrot avec papa, la fille. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, donc des gens venaient avec leurs souvenirs d'enfance.
Ça, c'est une motivation, sûrement, je suppose, non? Une motivation supplémentaire pour la faire revivre, cette auberge.
Ah bah oui, oui, puis les gens, bah du coup, oui, ils laissent leur obol pour la maison.
Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui sont membres de cette association qui, donc, à la suite de la SCI, a fait vivre le projet? Toujours une bonne question, ça.
Alors, en fait, on doit être une quinzaine, mais c'est assez difficile à évaluer parce que on n'a pas cherché forcément à prendre une cotisation d'association. Donc en fait, il y a plein de gens bénévoles, comme par exemple les couturières, qui vont venir faire de la couture, donner du bénévolat,
sans
qu'on ait forcément... J'avoue qu'on n'a pas forcément recensé exactement le nombre.
En tout cas, c'est un projet qui fait...
Parce qu'on ne force pas à prendre...
C'est un projet fédérateur, et fédérateur des habitants. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ressens et ce que j'en comprends. Ça mobilise quand même pas mal d'habitants. Ça veut dire que les cantinés, ils y sont attachés, à cette auberge.
Ah bah oui. Et puis donc, en fait, on parlait aussi des... effectivement, on n'a pas fait grand-chose en termes de... sur le bâtiment, mais par contre, on a fait des activités, donc ce que je vous disais, donc tout ce qui est couture, mais aussi on a profité de l'espace public qui est libéré pendant l'été pour faire... pour proposer des activités, une activité musicale qui n'a pas pu se faire parce qu'il a plu.
Ouais.
Et autrement, on a eu une soirée en galop, donc avec un... qui a drainé un petit peu de monde. Et puis, donc, tous les mardis et vendredis, et samedi, pardon, on a des musiciens bénévoles qui font de la musique à l'auberge et qui, effectivement, ben, le fait qu'il y ait de la musique dans la maison attire les gens, et voilà. Et donc ça bouge, ça vit, et puis
et c'est un projet de proximité, hein, pour le coup, Élise, un projet de territoire qui doit forcément sonner juste aux oreilles de Richesse. Quand même, on a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est la taille de cette auberge, parce que je crois qu'elle est quand même assez grande.
281 mètres carrés de surface, voilà, sur 5 niveaux.
De quoi faire.
Et en fait, c'est deux maisons. Il y a la maison du 16e qui est donc à la façade que l'on voit sur la place. Et puis, cette maison était construite avec un escalier à vis à l'extérieur à l'époque. Et donc, au 18e siècle, dans la rue Émile-Nault, la petite rue qui descend à gauche de l'auberge,
ouais,
ils ont rattaché au 18e siècle, une autre maison a été rattachée. Ce qui a permis, donc, ce qui fait qu'il y a 280 mètres carrés de surface, mais il n'y a que des niveaux différents. Hein.
D'accord. Ouais.
L'escalier à vis est commun aux deux maisons, mais il n'y a aucun plancher qui soit commun. Voilà, c'est aussi l'originalité de la maison.
Et l'original, en plus, c'est plutôt sympathique. Élise ? Non, je crois que tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure, c'est pour ça. En tout cas, on disait donc un projet qui s'accompagne. Est-ce que l'accompagnement, il se peut poursuivre justement avec Richesse, tiens, pour le coup?
Bah oui, on fait des rendez-vous de temps en temps pour préparer notamment le dossier du loto du patrimoine, ce genre de choses. On continue à être là en appui. Donc voilà, moi,
c'est important parce que c'est aussi on travaille aussi avec nos amis d'Europe Armor, et c'est vrai que on apprend qu'il y a possibilité. C'est vrai qu'on a souvent peur lorsqu'on est dans le monde associatif, lorsqu'on a des beaux projets comme celui que vous défendez aujourd'hui, Françoise et Claudine, on a toujours peur des dossiers, parce que c'est chronophage, parce que ça prend du temps, on a toujours peur d'oublier une case. Il faut savoir que à Richesse, on se fait forte et fort d'accompagner justement ces constitutions de dossiers, tout comme je vous le glisse en passant, vous savez qu'il y a des financements européens qui peuvent peut-être aussi accompagner ce genre de chose. Bah là aussi, on apprend qu'il y a des personnes, des techniciennes et techniciens qui peuvent aussi aider à tout ça. Il faut aller le faire. Et c'est parce qu'aller chercher l'argent, c'est bien beau de le faire, mais lorsqu'on a des personnes qui vous accompagnent, c'est quand même un peu plus facile, Élise.
Oui, je pense que c'est, enfin, c'est à elle de le dire, hein, mais en tout cas, c'est sûr que ça peut être rassurant, c'est un appui. On voit des choses passer, on a, enfin voilà, on capitalise aussi sur toutes les personnes qu'on peut accompagner,
c'est
mais
ça.
Du coup, voilà, et puis nous, c'est toujours un plaisir d'y retourner aussi, de passer à l'auberge et puis de voir les gens qui viennent s'asseoir pendant le marché. Au rez-de-chaussée de l'auberge quand c'est ouvert, quoi.
Bah ouais, c'est plutôt chouette. Dire aussi qu'elle a vraiment un aspect patrimonial et architectural assez particulier, hein, cette auberge. J'ai vu quelques photos. Il y a même des gargouilles, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, des têtes de personnages un peu fantastiques. Tu vas avoir peur, Eugénie, tu vois.
Oui, il y a un petit diable dans un coin et puis
il y a une coquille Saint-Jacques.
Une coquille Saint-Jacques.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Une coquille Saint-Jacques, en principe, c'est Compostelle.
Et puis un cadran solaire. En haut à droite.
Ouais. Ils le connaissent bien. Oui, tu vois, Eugénie.
Marcus, s'il te plaît, parce que ça me fait rire. Tu me dis, je vais avoir peur. En fait, je me suis toujours posé cette question-là. Des gargouilles à un fond bizarroïde, là, du diable et tout. Qu'est-ce que ça représente, en fait, dans une architecture comme ce que vous dites là?
Ça, c'est une vraie colle.
c'est une colle, parce qu'en fait, il y a plein de. Il y a plein d'explications en fait, suivant les bâtiments. Donc en fait,
je sais que dans les églises, par exemple, pour répondre à ta question, souvent c'était pour montrer l'église qui écrabouillait les diables, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils sont souvent représentés sous des piliers, sous des choses comme ça, quoi. Mais alors je sais pas particulièrement sur l'auberge, mais t'as plus qu'à y aller. À Quintin.
Mais bon, il faudra trouver quelqu'un pour me donner cette réponse-là, parce qu'un lieu qui accueille du monde avec quelque chose qui fait peur, je trouve quand même.
On a eu l'étude justement historique qui a été faite par Pauline Roy, et en fait, elle a pas d'explication sur ce diable.
Donc celui-là, il est mystérieux.
Voilà. Pour l'instant,
ça reste un mystère, donc.
Mais résoudre.
En tout cas, ce mystère, il faut aller le voir. Donc on le disait, vous le disiez, hein, Élise, vous le disiez, Françoise et Claudine, c'est les jours de marché qu'on peut le plus facilement y aller. C'est ça.
Voilà, le mardi matin et le samedi matin.
Et le samedi matin.
Et puis là, ça va être ouvert en gros presque tous les jours jusqu'à Noël.
Ouais. Puisque période de fin d'année oblige.
On a fabriqué des petits anges, des petites étoiles, tout ça fait en lin.
Parfait.
Et puis, alors, un avantage, c'est que quand Noël est terminé, ça prend pas de place dans les tiroirs ni dans les armoires.
Oui, parce que le lin, c'est pas des objets monumentaux, à part peut-être les
et
draps, éventuellement. Et ça se lave en plus, ouais. Si on veut venir s'intéresser, si on veut pourquoi pas adhérer à l'association, enfin, en tout cas, si on veut venir filer un coup de main, hein, tout simplement, pour que cette auberge, le plus rapidement possible, reprenne tous ses droits et toute sa vie, comment ça se passe, Claudine?
Alors, on a plusieurs possibilités. On peut toujours devenir copropriétaire si on le souhaite. La part minimum est de 100 euros. Donc là, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse de l'auberge. Donc,
100 euros pour être propriétaire d'une auberge, ça va.
@gmail.fr.
Aubergealarose@gmail.com.
Pour devenir copropriétaire. On peut bien sûr participer à l'association. On peut venir acheter nos produits logotés, faire des dons ou toujours des propositions de services parce qu'on les inscrit toujours. Et enfin, on peut, pour des dons plus importants, être mécène par l'intermédiaire de demeures historiques. Donc là, il y a 66% de défiscalisation. Et on a actuellement une action qui est en cours pour justement finir de financer l'étude.
Donc c'est parfait. Donc est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a peut-être
Oui, il y a un site internet, aubergedelaportealarose.com.
Très bien.
Et justement, dessus, vous pouvez voir une partie de l'étude historique. Et puis, il y a un petit lien, nous soutenir, où là, vous trouvez directement le lien vers le mécénat.
Exactement. Donc, allez sur le site, donc aubergealarose.com. Envoyez un mail, aubergealarose@gmail.com. Et comme ça, vous aurez tous les renseignements. Comme je le disais, être propriétaire d'une auberge pour 100 euros, c'est pas mal.
Ça va, oui.
Ouais.
Il y a aussi un Facebook qui reprend nos actualités.
Très très bien. Ben merci en tout cas à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Radioactive. Mais bravo pour votre enthousiasme. Donnez-nous des nouvelles de temps en temps parce que ça nous intéresse forcément. Et puis Élise, je suis sûr que si on contacte Richesse, on saura forcément vous aiguiller.